10h30, Europe 1 Sport, avec Lionel Rousseau sur Europe 1.
La soirée sport, Europe 1 Sport sur Europe 1, radio travail, radio à la maison, mais Europe 1, radio ouverte bien sûr pour continuer à débattre, à évoquer l'actualité du sport et du football notamment, avec cette problématique de reprise ou pas de la saison, des championnats, des coupes et de la Coupe d'Europe, enfin des Coupes d'Europe. C'est vrai que l'UEFA a bien insisté sur le fait qu'il était important que cette Ligue des Champions et cette Europa League se terminent avec une finale prévue. Si tout va bien, hein, c'est de la théorie, le 27 août pour la finale de l'Europa League et le 29 août pour la finale de la Ligue des Champions. Avant ça, il faudra jouer des matchs quand même pour arriver à obtenir deux finalistes. Et on en revient, c'est vrai, Guy Roux, Ambre Godillon, Jean-François Pérez, et là je vous cède la parole, Ambre, au problème de calendrier, notamment pour le Paris Saint-Germain. Si Noël Le Graët obtient satisfaction, qu'on joue la finale de la Coupe de France, puis qu'ensuite il y a la finale de la Coupe de la Ligue, le PSG sera concerné par ces deux coupes et devra faire donc deux matchs en trois jours. Puis ensuite, la reprise de la Ligue 1, terminer la Ligue 1, mais après jouer aussi la Ligue des Champions. C'est un objectif majeur pour le Paris Saint-Germain. On va arriver à faire tout entrer ?
C'est un casse-tête, hein. Je pense qu'ils sont nombreux à plancher dessus. C'est pas pour rien que le scénario de reprise, pour l'instant, il y a rien d'établi. Là, on est vraiment dans l'expectative. Hein. Mais déjà, pour moi, le match de reprise, pour moi, c'est probablement le pire moment pour jouer une finale. Alors, pour en jouer deux, c'est encore pire. Je suis un peu d'accord avec Jean-François. Là. Pour moi, il va falloir reprendre en douceur. En plus, on parle quand même de joueurs qui n'auront pas disputé la compétition et toutes les exigences que ça implique en termes physiques depuis deux mois. Il va falloir une vraie réathlétisation, je pense. Voilà. Donc les finales, c'est pas la priorité. Le championnat, on ne sait pas encore où on en sera. Et la Ligue des Champions, c'est vrai, c'est un autre problème. Alors là, le côté organisationnel, je pense que ça va être un vrai casse-tête. Il y a déjà 17 matchs à jouer en tout en Ligue des Champions. Il y a 4 derniers huitièmes de finale qu'il va falloir caser. Quid des joueurs qui ne seront plus sous contrat fin juin? S'ils partent, est-ce qu'il y aura des équipes affaiblies? Est-ce que les championnats domestiques seront vraiment terminés en août? Je crois que l'UEFA planche sur un 3 août. Il faut que toutes les compétitions nationales soient finies le 3 août. Voilà, ça fait énormément de questions pour la Ligue des Champions. Après, si vous me demandez mon avis personnel...
Oui, je vous demande votre avis personnel.
Voilà, moi j'adore, mais c'est un petit peu égoïste, hein. C'est vrai, parce que on parle de sujets assez légers, donc je me permets, mais moi j'aime le football en août, j'aime le football en été, ça me rappelle les grands tournois, les Coupes du Monde, les tournées estivales, voilà, c'est un autre football. On sait qu'il y aura pas de Roland Garros pour les amoureux de sport, on sait que le Tour de France sera décalé, l'Euro n'aura pas lieu, il aura lieu l'année prochaine. Si on peut offrir la Ligue des Champions et ses très belles affiches en août, si c'est possible, si le côté sanitaire, encore une fois, est respecté, bah, pour moi, allons-y. C'est mon avis.
Vous êtes une romantique, Ambre Godillon. Vous aimez Paris au mois d'août et on vous comprend bien, évidemment. Comme
le foot avec
bien,
le barbecue,
Aznavour.
Voilà, le foot
aussi.
Avec le barbecue et le verre de rosé, j'aime.
Pourquoi pas, avec modération, bien sûr. Guy Roux, voilà. C'est vrai que ça fait rêver ce que nous dit Ambre Godillon, mais est-ce bien raisonnable, une Ligue des Champions en un mois, au mois d'août?
Oui, bien sûr. Peut le jouer. Maintenant, pour l'histoire de la réathlétisation, est-ce que vous pensez que le football moderne, que dans le football moderne, les grands clubs font de la préparation foncière avant de reprendre le championnat? Ils arrivent, ils vont sur le stade, on leur donne les équipements, on les fait photographier, ils ont à la rigueur un entraînement, deux entraînements, puis intercontinental, tournoi de New York, tournoi de Montréal, tournoi du Japon, Hong Kong, des matchs tous les trois jours. Quand on leur donne cinq jours, ils font des entraînements, les entraîneurs, et puis on rentre. Et puis c'est le championnat. C'est le
préparat. Que...
Alors, attendez. Pour l'histoire des trois jours, donc moi, on peut rejouer tout de suite, tout de suite, après 15 jours, deux semaines d'entraînement pur. Et je vais vous dire, si on leur donne deux semaines d'entraînement, ils vont caser un ou deux matchs amicaux dans les deux semaines d'entraînement. Donc, c'est un argument qui est que les clubs pro d'élite, il n'y a pas que les Français, ont laissé tomber. Hein, on laissait tomber. Mais en dehors de cet argument-là, tout le reste est vrai. Ça serait mieux que les équipes soient en pleine forme. Ça tombe mal que Paris Saint-Germain soit qualifié partout, parce qu'ils vont être obligés de jouer l'une de deux coupes avec la moitié de leur équipe. Maintenant, je voulais apporter une suggestion.
Allez.
Je ne l'ai pas trop lu encore. Je devais demander des droits d'auteur. C'est de changer la loi, je ne sais pas combien, la loi 3... qui s'appelle les joueurs dans les 17 lois du jeu. Je ne sais pas le numéro de la loi sur les joueurs. Et au lieu de jouer plus 3 ou 4 maintenant, eh bien on jouerait à 11 plus 6 plus le gardien de but. Ça, c'est la première modification modérée que je ferai.
Et ce qui veut dire, Guy, je vous interromps, ce qui veut dire plus de remplacements autorisés,
voilà.
C'est ça que vous préconisez.
Plus de remplacements. Et si on veut aller au bout du confort et de la préservation de la santé musculaire des joueurs, règlement comme au basket, 18 joueurs ou 20 joueurs, et on change comme on veut. Avec des précisions pour savoir comment on fait les changements, pas tout à fait comme au basket, parce qu'on s'y retrouverait pas. On en retrouverait parfois à 12, mais enfin, changement libre pendant tout
le match. Et puis il faut limiter le nombre de personnes dans les stades, faut pas oublier aussi.
Comment ?
Il faut limiter également le nombre de personnes au maximum dans les stades.
Ah, bah ça, c'est un autre dossier, ça. Oui. Les spectateurs, voilà. C'est un autre dossier.
Je parlais de la préparation physique, je rebondis sur ce que vous dites, Guy, parce que en ce moment, c'est la grande mode. Pendant le confinement, les joueurs s'expriment beaucoup sur leurs conditions, ils donnent beaucoup d'interviews également. Et j'ai vu, alors, sur un live Instagram, Adil Rami donne beaucoup d'interviews et il en parlait notamment de la préparation physique. Et il a expliqué que, par exemple, l'année post-Coupe du Monde, la saison qu'il a faite, peut-être l'une des pires de sa carrière du côté de l'Olympique de Marseille, c'était notamment une répercussion directe du manque de préparation physique. Lui, il l'expliquait, c'est pas le premier joueur à le dire. Alors moi, je suis pas une sportive de haut niveau. Je ne peux que l'écouter ou vous écouter. Vous savez évidemment mieux que moi le sujet. Mais lui disait que vraiment une année sans préparation physique était vraiment une année sans pour lui. Vraiment sur le côté de l'athlétisation. Du coup, je me pose la question pour la Ligue des Champions, mais je me pose également pour la question des 9 mois de compétition qui vont certainement se greffer juste après. Est-ce que les joueurs sont capables physiquement d'encaisser 12 mois de compétition sans préparation ?
La réponse de Giroud.
Bon, déjà, il faudrait que les jours où ils sont pas pris par le boulot, c'est-à-dire les matchs et les voyages, ils se couchent à 22 heures. Ça, c'est une première règle. Il y en a des joueurs qui le font, mais c'est pas la règle générale. Moi, je sais que c'est pas la règle générale, que la règle générale, quand même, c'est des petites sorties par-ci, par-là, par-là, par-ci, et qui ça compte autant que les matchs. Moi, les joueurs, je leur disais combien vous avez fait de matchs. Alors, cette année, on avait 54 matchs à Auxerre, la dernière année que j'ai faite, en 1905. En 2005. Pas 1905. Donc, ceux qui avaient fait 10 fois une sortie, ça faisait 65 matchs. Alors, ça, c'est déjà un point. Vous comprenez? Au basket, vous savez combien ils font de matchs aux États-Unis? Je crois que c'est 87 matchs. Dans la saison. Ils jouent tous les deux jours. La saison, ils se reposent.
C'est vrai, il y a cette problématique, effectivement, mais les sportifs sont peut-être capables de faire plus d'efforts. Il y aura peut-être un peu de casse aussi, hein, avec les blessures à répétition, avec des matchs qui vont se répéter, effectivement, successivement. Jean-François Pérez, est-ce que ça vous sied, vous, cette idée d'une Ligue des Champions qui serait donc contenue, réduite à un mois de match, comme dans un tournoi? Un tournoi où on réunirait donc les meilleures équipes, les 16 meilleures équipes qui s'affronteraient pour en finir avec la saison?
Je trouve ça très pratique vu le contexte. Il n'y a pas 50 solutions pour arriver à boucler ces compétitions. Maintenant, je pense que c'est aussi une usine à gaz extraordinaire et une machinerie infernale d'une certaine manière, parce que c'est vrai que c'est sympa le foot en été, mais imaginez-vous quand même tout le mois d'août jouer tous les 3 jours sous des températures qui, dans la plupart des pays d'Europe, sont de plus en plus chaudes. On atteint les 40-45 degrés parfois. Des matchs tous les 3 jours avec des déplacements pour la moitié des équipes et des tours qui s'enchaînent comme ça de façon vertigineuse sans qu'on ne sache même plus si on va jouer les huitièmes, les quarts ou les demi. Voilà, je trouve que c'est le moyen le plus commode, mais franchement, ça va avantager les clubs qui ont les effectifs évidemment les plus riches et les plus larges, parce qu'en qui est 8 matchs potentiellement, on sera à quoi? Il y en a qui auront encore des huitièmes de finale à jouer. Tiens, d'ailleurs, Jean-Michel Aulas, s'il est pour une saison blanche, le match gagné contre la Juventus 1-0, on va l'annuler aussi, du coup, non? On va tout reprendre au match aller, non?
Pas bête. Ah oui,
hein,
non.
Tant qu'à faire.
Est-ce que ça s'applique aussi aux matchs européens?
Non,
ça, c'est la question,
non,
Jean-François.
Je vais lui souffler. Maintenant, on ne joue plus qu'un match par tour. On fait plus aller les
premières. Très bien, donc du coup, Lyon est qualifié alors.
Donc là, il est déjà qualifié.
Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, Guy, avant de conclure?
Non, mais je voulais dire que qu'on n'a qu'à pas faire les matchs aller-retour. On n'a qu'à faire une pièce et on décide sur quel terrain on joue à chaque fois. Ça sera pas juste, mais ça sera... Ça compte en Coupe de France. C'est bien le tirage au sort qui décide du terrain. Et là, on dirait en Coupe d'Europe, pour ce qui reste à jouer, on jouera peut-être le match retour de Turin. Mais après, pour les quarts de finale et demi-finale, on joue un seul match.
Ou alors un lieu unique, comme dans les tournois de Sixte de l'été à la fin de la saison chez les amateurs, où toutes les équipes se réunissent et on joue le tournoi sur la journée, du matin jusqu'au soir.
On le fait où?
Sur un lieu unique. Tout le monde vient sur un lieu unique. Le lieu de la finale, un tirage au sort. Le lieu de la finale.
Où il fait 45 degrés.
L'UEFA peut trouver, mais bien sûr. Non, mais il faudra prendre une décision. Mais ça peut être une suggestion de confiner les joueurs, de les réunir pour que justement le virus ne se propage pas.
La bonne idée, elle est partie. Moi, je vais penser au voyage des Français en 1930 pour la première Coupe du Monde en Uruguay. Ils s'étaient entraînés sur le bateau. Il y avait l'équipe d'Italie et ils s'entraînaient sur le pont du bateau. Donc j'avais dit, on n'a qu'à faire un terrain restreint sur le porte-avions. Mais ça ne va pas.
Et puis là, les ponts et les porte-avions, en ce moment, ce n'est pas très
agréable. Ben oui, c'est ça.
C'est pas conseillé, effectivement. Mon Dieu, mais qu'allait-il faire dans cette galère? Les débats continuent sur Europe 1, tout de suite.